Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast, bien évidemment. Et je me rends compte que je prends jamais le temps de vous demander si vous allez bien. Après, c'est peut-être qu'on peut pas interagir directement. Ça joue son petit rôle. Peut-être aussi parce que si j'attends votre réponse, ça va être très long. Vraiment très long. Je rigole pas.
C'est fini, oui ?
Oui, pardon. Bon, aujourd'hui, ça va être un épisode difficile. Pourquoi, me direz-vous ? Pour deux points bien précis. Le premier, c'est qu'on va parler de mon réalisateur préféré. Donc, au niveau de l'objectivité, ça va poser problème.
Ça, c'est pas réglo.
Mais je vous promets de faire de mon mieux. Et aussi parce que je vais parler d'un film qui a fait énormément polémique. Parce qu'il aborde des sujets assez durs, et notamment pour une scène qui a choqué à sa sortie à Cannes. D'ailleurs, je recommande aux plus sensibles d'entre vous de ne pas visionner ce film, ou en tout cas de ne pas visionner ces scènes. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du cas Irréversible.
Et la preuve, c'est les rêves prémonitoires.
Avant de vous parler du film, j'avais envie de vous parler de sa genèse. Irréversible est le deuxième film de Gaspard Noé, après Seul contre tous, sorti en France le 17 février 1999 avec le regretté Philippe Naon.
Jamais je ne t'oublierai.
Dans ce film, Noé aborde différents thèmes comme la dépression et la solitude, la frustration quotidienne avec un accent sur la frustration sexuelle, et enfin, ce qui a déplu à une certaine partie du public, la paternité et l'inceste.
Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents.
Ouh là là, on arrête là. C'était dégoûtant. Surtout que Gaspard Noé est quelqu'un qui n'aime pas cacher des choses aux spectateurs. Il veut qu'ils soient en immersion et montre donc dans ce film tout le détail de la relation père-fille.
Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa.
Arrête ça. Laisse mon enfance tranquille, s'il te plaît. Donc on se dit qu'il part déjà avec un beau CV, ou qu'au moins pour son deuxième film, il va y aller mollo et partir sur quelque chose de plus soft. C'est tellement mal connaître le personnage. Il va aller plus loin que son premier film encore. On resitue le contexte. Festival de Cannes, 2002, David Lynch est président du jury, et en compétition on retrouve des films comme Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, la Palme d'Or qui était décernée au film Le Pianiste de Roman Polanski. Ou même le documentaire Bowling for Columbine de Michael Moore. Mais le film qui va remuer la croisette, c'est Irréversible de Gaspard Noé. Le film est diffusé le 24 mai 2002 en soirée, et bon nombre de personnes quittent la salle durant la projection, qui a engendré des malaises et des réactions à chaud très incisives, faut le dire. Je vous laisse découvrir les mots gentils qu'ont pu avoir les spectateurs à l'égard du film et de Noé.
C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles!
C'est même pas choquant, c'est... Y a rien, on comprend rien, y a pas de... Ça tourne dans tous les sens, y a rien.
C'est pas un bon film, c'est glauque, vraiment glauque. C'est
absolument ménable.
C'est un malade mental.
Qui vient de me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé. Viens me voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois.
Le film repart de Cannes bredouille et sortira au cinéma avec une interdiction au moins de 16 ans, pour dire que celle-là, il l'a pas volée. Mais alors, pourquoi ce film a suscité tant de haine, mais aussi tant d'admiration ? Parlons du film en lui-même. Le film nous raconte la nuit à multiples rebondissements de trois personnages, Alex et Marcus, interprétés par Monica Bellucci et Vincent Cassel, couple à la ville et à la scène à l'époque, et de Pierre, joué par Albert Dupontel, qui est l'ancien compagnon d'Alex. Ils partent en soirée, tous les trois, et la soirée va virer au cauchemar. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet et spoiler. Et oui, je suis un mec comme ça, moi.
T'es un connard, toi.
Donc si vous voulez voir le film, mettez en pause ce podcast, je vous laisse 3 secondes. C'est bon ? À la soirée, Alex et Marcus vont se brouiller. Concrètement, parce que Marcus se comporte comme un enfoiré, oui, c'est ça. Attendez 2 secondes. L'alarme un jour violente s'est pas déclenchée ? Ah, on me dit dans l'oreillette qu'elle est partie rejoindre Papa Johnny. Bah c'est bon à savoir, on va en profiter. Alex part donc de la fête et va pour prendre un métro. Malheureusement, elle croise une infâme ordure, que dis-je ? Un supraconnard qui va la violer dans ce long couloir rouge menant vers le métro. Et la scène dans le film dure 12 minutes.
C'est beaucoup, beaucoup trop long.
Surtout que la scène est vraiment horrible. Je me souviens avoir été tétanisé la première fois que je l'ai vue et ne pas pouvoir bouger en fait. C'est ce sentiment de... Ah, ça stresse. Pourquoi cette scène alors ? Je vais y venir. Le violeur va donc la laisser sur le carreau. Elle va finir par être prise en charge par les secours sous les yeux de Pierre et Marcus. Ce dernier vrillant totalement dans une spirale de vengeance, de haine et de violence. Et va chercher à tout prix à retrouver Leutenia quand il apprend qu'il est le ravisseur d'Alex. Oui, il a pas de nom, c'est juste Leutenia. En même temps...
Les deuxièmes prénoms, c'est inutile.
Il va le retrouver donc dans une discothèque gay. Et le fameux Tenia va se faire assassiner par Pierre à coups d'extincteur dans la gueule.
Ah, ça va ta gueule !
Dans une scène encore une fois, assez violente. La spécificité du film, c'est qu'il est ancré... Ah !
Je veux pas vous parler, je parle comme ça !
antéchronologie. Voilà, pas facile à dire. Ça signifie que le film commence par la fin de l'histoire et qu'il se termine par le début. En gros, plus le film avance, plus on recule dans le temps. C'est-à-dire que la scène de meurtre intervient au tout début, pour bien nous choquer d'emblée, hein. Oui. En parlant de ça, une version du film remontée chronologiquement est sortie l'année dernière, mais je vois pas l'intérêt de ruiner l'intention de base de l'auteur. Et c'est ce qui fait aussi que l'une des dernières scènes du film, c'est une scène d'amour entre Alex et Marcus, juste avant de partir à la soirée. Dans cette scène, Marcus fait preuve de beaucoup d'engagement envers Alex. Un engagement qui ne semble pas gêner cette dernière. Son corps l'exprime et le spectateur ressent une vraie complicité, une vraie tendresse. Dans la scène de viol, des gestes similaires sont visibles de la part de l'agresseur, et là, tout de suite, en tant que spectateur, on est beaucoup moins bien. Ce film parle de consentement mutuel. Cette scène violente n'est pas là pour faire du bruit, bon, peut-être un peu, mais elle est avant tout là pour délivrer un message, illustrer une opinion. Et s'il faut le faire en choquant, et bah Noé va le faire en choquant. Pour lui, le message est plus important que tout le reste. Malheureusement, ce que je lui reproche, c'est que les gens n'ont fait que parler de l'atrocité, de la violence des scènes, délaissant le message. Le youtubeur Alfie, d'ailleurs, vous parle beaucoup mieux que moi du parallèle dans sa vidéo essai qui s'appelle Irréversible ou Un curieux parallèle. Bisous, c'est de la pub gratuite. Le film parle de la monstruosité qui sommeille en chacun de nous, de l'horreur dont est capable un être humain. Ça parle au-delà de ça des relations humaines. Tiens, petite référence à l'épisode précédent. Avec notamment le comportement du personnage d'Albert Dupontel. Il est développé de manière très subtile et intéressante, je trouve. En parlant du loup, voici ce qu'il pense du cinéma de Gaspard Noé.
Ce qui est fascinant chez Gaspard, c'est la sincérité avec laquelle il affronte ses obsessions, mort, sexe, violence, qui sont des vraies pulsions de vie, bizarrement. Et puis il y a chez cet individu une grande sensibilité, en fait. Donc il raconte beaucoup de choses de vraies à travers ses films, apparemment déviants, apparemment décalés, apparemment bizarres. Il y a beaucoup de vérité dans le cinéma de Gaspard.
J'aime beaucoup la faculté que le film a de se répondre à lui-même, à s'auto-référencer. Comme quand Alex parle d'un cauchemar dans lequel elle est dans un tunnel rouge à Marcus, tunnel qu'elle retrouvera plus tard dans l'histoire au moment de son viol. Ou quand dans l'ascenseur, elle fait référence à ce passage en disant que notre avenir est déjà tracé, en apportant les rêves prémonitoires comme preuve. Tous ces petits détails font que j'aime beaucoup le film. Techniquement, Gaspard Noé a une patte hyper reconnaissable dans sa manière de filmer. À la Super 16, avec une caméra légère et une steadicam qui permet des mouvements fluides, qui nous plonge dans le chaos et nous file la nausée comme dans la scène de la boîte de nuit. Et cette succession de plans séquences, sérieux. C'est un exercice qui demande énormément de maîtrise et c'est tout bonnement réussi. La contre-plongée sur les coups d'extincteur, c'est horriblement efficace. Visuellement, c'est fou. Au niveau du travail du son, on est plongé dans l'atmosphère chaotique du film à l'aide d'infrasons, notamment dans la scène de la discothèque. C'est du génie, encore une fois, de mettre une tension pareille. Le thème de Beethoven me fout les frissons à chaque fois que je l'entends désormais. C'est pas facile à vivre, ok?
Putain, c'est dur.
En plus, la musique du film, et ça c'est merveilleux, est composée par Thomas Bangalter, aka l'un des membres de... Aujourd'hui, je vais pas reprendre de commentaires, vu que les principales critiques sur le film, j'y ai répondu. Je préférais délivrer un message à toutes les personnes qui sont ou ont été victimes de violences physiques ou sexuelles, ou d'inceste même. Que vous soyez une femme, un homme, un enfant, peu importe votre âge, peu importe quand les faits se sont déroulés, il faut en parler. Il faut libérer votre parole. Je veux pas que ma démarche paraisse déplacée, je veux juste encourager les gens à en parler. De nombreuses aides psychologiques existent pour les victimes, notamment le 6 france-victime.fr, qui possède un numéro, le 116-006, joignable de 9h à 19h, 7 jours sur 7. N'ayez pas peur, libérez la parole. Merci à tous d'avoir écouté la pastille jusqu'au bout. C'était un sujet assez difficile à traiter parce que je voulais pas l'aborder maladroitement au vu des thèmes, mais ça me tenait vraiment à cœur de parler de ce film. Tout d'abord pour redorer un peu son blason, mais aussi parce que je trouve que le film est très important. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager sur tes différents réseaux sociaux pour la visibilité. Ça fait pas de mal de le rappeler.
On partage ?
Pour l'heure, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Salut !